Gloire au Seigneur. Ce matin, on veut poursuivre notre série intitulée « Comment être saisi par le Saint-Esprit en 2009 ». La semaine dernière, on a posé deux questions auxquelles on a répondu. La première question était celle-ci. Lorsqu'on regarde au jour de la Pentecôte, qu'on retrouve dans le livre des Actes au chapitre 2, on a vu qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, un déversement de puissance extraordinaire. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est la seule fois où ça s'est passé ou est-ce qu'il y a eu d'autres moments où on a vu une effusion du Saint-Esprit et que les langues sont venues comme étant le signe initial? Et on s'est dit, est-ce que c'est juste à la Pentecôte et par la suite ça s'est éteint ou est-ce qu'il y a eu d'autres moments de ce genre-là? On a vu que pour répondre à cette question-là, on ne pouvait pas se tourner vers les évangiles. Les évangiles nous indiquent ou prophétisent qu'il était pour y avoir un déversement de l'Esprit. Donc, ils prophétisaient, ce n'était pas encore accompli. Et si on va au niveau des écrits, je pourrais dire pastorales, c'est l'apôtre Paul ou Pierre ou Jacques qui s'adressaient aux églises en raison de toutes sortes de problèmes ou de défis que les églises rencontraient. Donc, ils n'adressaient pas nécessairement le sujet d'être remplis de l'Esprit. On peut voir peut-être un peu plus ce sujet-là dans le livre de Paul aux Corinthiens, quand il parle des dons spirituels, mais sans plus. S'il y a un endroit où on peut voir quel était le plan de Jésus en ce qui a trait au baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment dans le livre des Actes. On a vu que ça s'est passé le jour de la Pentecôte. On a vu à la fin du message de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, à la fin du chapitre 2, alors qu'il fait il prêche devant des milliers de personnes qui se sont attroupées, il demande, à la fin de son message, les gens commencent à demander à Pierre, « Que devons-nous faire? Nous sommes touchés. Que ferons-nous à partir de ce que tu viens de nous prêcher, Pierre? » Et Pierre va dire, « Repentez-vous, croyez dans le Seigneur Jésus, soyez baptisés dans l'eau, et après, nous vous imposerons les mains et vous recevrez le Saint-Esprit. » Donc ici, c'était très évident, Pierre, ce qu'il communiquait, c'était « Repentez-vous et soyez baptisés dans l'eau pour signifier, pour démontrer, pour concrétiser le fait que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Soyez baptisés dans l'eau et par la suite, on va prier afin que vous soyez remplis de l'Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Donc, on a vu qu'ici, l'apôtre Pierre dit, premièrement, la repentance, être baptisé, et par la suite, on va prier afin que vous soyez remplis de l'Esprit, tout comme nous, on vient de l'être. Comme si je parle, comme si c'était Paul qui parlait. On a vu un peu plus loin, on a fait vraiment un survol du livre des Actes. Un peu plus loin, on a vu les disciples de Samarie. Les disciples de Samarie avaient connu le ministère de Philippe. Philippe était un homme d'onction et de puissance. Philippe est arrivé en Samarie, les miracles, les guérisons, les prodiges, il impressionnait tout le monde et vraiment le Seigneur confirmait le message de l'Évangile que Jésus-Christ était le Fils de Dieu par les miracles, toutes sortes de choses de prodiges et les gens se convertissaient et les gens se faisaient baptiser dans l'eau. Mais finalement, Philippe reçoit un appel de la part du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui dit, « Va-t'en dans tel chemin et tu vas faire une rencontre importante. » Et c'était l'eunuque éthiopien. Et alors que Philippe quitte Samarie pour s'en aller voir l'Éthiopien, quelques temps plus tard, Pierre et Jean, qui étaient à Jérusalem, décident, ils entendent parler qu'il s'est passé quelque chose de particulier en Samarie et décident d'aller voir ce qui s'est passé. Pierre et Jean arrivent à Samarie et ils rencontrent les disciples qui ont accepté Christ et qui se sont fait baptiser dans l'eau. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc, Pierre et Jean commencent à imposer les mains aux gens de Samarie, aux disciples de Samarie, commencent à imposer les mains. Et alors qu'ils commencent à imposer les mains à tous les gens qui sont là, il y a un homme du nom de Simon, qui était un ancien magicien, qui lorsqu'il voit Pierre et Jean imposer les mains aux gens, des gens qui avaient été baptisés dans l'eau, qui avaient reconnu Jésus comme sauveur, alors qu'ils sont en train d'imposer les mains, Pierre et Jean, Simon voit quelque chose. C'est-à-dire, lorsque Simon vit que l'Esprit-Saint était donné par l'imposition des mains, il a dit à Pierre et Jean, « Je suis prêt à payer pour avoir ce que vous avez. Ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes, il y a quelque chose qui prend place. » Et Simon a vu quelque chose d'assez convaincant pour dire, « Je suis prêt à payer pour avoir ça. » Et je crois que c'était vraiment un signe extérieur que Simon a vu, qui a fait en sorte qu'il dit, « Moi, je suis prêt à payer pour ça. » Donc ici, je crois que les langues sont venues comme le jour de la Pentecôte. Un peu plus loin dans le livre des Actes, on voit l'apôtre Paul et Ananias. L'apôtre Paul qui rencontre Jésus, à ce moment-là, c'était pas l'apôtre Paul, c'était Saul, rencontre Jésus sur le chemin de Damas, une lumière resplendissante. Vraiment, est là. Et c'est Jésus lui-même qui s'adresse à Saul. Et alors qu'il s'adresse à lui, Saul devient aveugle. Et Jésus termine son intervention auprès de Saul en disant, « Va dans Damas et tu vas comprendre ce qui va se passer. Je vais te donner les prochaines indications à Damas. » Finalement, Saul rentre à Damas aveugle, ne voit plus rien. Ça nous dit qu'il a jeûné pendant 3 jours de temps. Il n'a même pas bu pendant ces 3 jours-là. Et j'imagine que Paul était quelqu'un de très sensé, quelqu'un qui était très connaissant. On sait très bien de par la parole et des écrits du Nouveau Testament. Mais Paul, tout d'un coup, alors qu'il est dans ce temps de jeûne et de prière, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Parce que 3 jours plus tard, le Saint-Esprit interpelle Ananias. Il dit à Ananias, va dans telle maison, il y a Saul qui est là, je veux que tu ailles prier pour lui afin qu'il recouvre la vue et afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et Ananias dit, Seigneur, Saul, j'ai entendu parler de cet homme-là, c'est quelqu'un qui persécute l'Église, c'est quelqu'un qui met les chrétiens dans la prison. Et le Seigneur dit, va, parce que c'est un outil que j'ai choisi, c'est un homme que j'ai choisi pour faire le ministère, pour faire avancer l'œuvre. Finalement, Ananias quitte sa maison, se rend dans la maison que le Seigneur lui a indiquée. Il rentre et il dit ceci à l'apôtre Paul, qui était Saul à ce moment-là. Il dit, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin qui venait à Damas, le chemin qui vient à Damas, qui mène à Damas, le Seigneur Jésus qui t'est apparu m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et on sait que l'apôtre Paul était quelqu'un de rempli de l'Esprit, quelqu'un qui disait aux Corinthiens plus tard, va dire, je parle en langue plus que vous tous, je parle en langue, je veux que vous parliez tous en langue, etc. C'était quelqu'un qui était rempli de l'Esprit, qui parle en d'autres langues. Et puis, finalement, il a recouvert la vue, notre ami Saul, et par la suite, il s'est fait baptiser dans l'eau. Et puis, par la suite, il a commencé son ministère. Donc, on a vu, ça s'est passé à la Pentecôte, en Samarie, l'apôtre Paul, on voit que le Seigneur a envoyé Ananias, et Ananias se présente à Saul en disant, « T'es mon frère, je sais que tu es mon frère, Saul. Et maintenant, je vais prier, comme le Saint-Esprit m'a demandé, afin que tu sois rempli de l'Esprit. » On voit un petit peu plus loin, Pierre chez Corneille, le Saint-Esprit a appelé Pierre à se rendre chez des païens, des non-juifs. Et alors que Pierre était là en train de prêcher, d'annoncer que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant, alors qu'il était en train de prêcher, le Saint-Esprit est descendu sur les gens dans la maison où il prêchait. Corneille et tous ses amis qu'il avait invités ont été remplis de l'Esprit, se sont mis à parler en d'autres langues. Et les Juifs, lorsqu'ils ont vu ça, ils étaient tout étonnés. Il dit, comment ça qu'eux reçoivent le Saint-Esprit comme nous on l'a reçu au début, c'est-à-dire à la Pentecôte? Il dit, est-ce qu'on peut empêcher ces gens-là d'être baptisés dans l'eau s'ils ont été remplis du Saint-Esprit comme nous? Et les langues étaient là, et c'est dit explicitement. Et un peu plus loin, on voit l'apôtre Paul, qui est maintenant vraiment l'apôtre Paul, qui s'est converti, qui est devenu un homme de Dieu, qui se présente à Éphèse. Et alors qu'il se présente à Éphèse, il rencontre un groupe de disciples. Et il demande aux disciples, en arrivant, la première question qu'il leur pose, c'est, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Les disciples de répondre, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul, il dit, voici. De quel baptême vous avez été baptisés? Ils ont été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Ah, OK. Jean-Baptiste, il a commencé à leur expliquer. Jean-Baptiste est venu afin d'annoncer la venue de Jésus. Et Jésus vraiment était celui qui devait venir. Il commence à leur expliquer. Et les gens comprennent le message. Les gens acceptent le message. Et l'apôtre Paul dit, maintenant, je vais vous baptiser dans l'eau. Il les baptise dans l'eau. Et une fois qu'ils ont compris le message, qu'ils ont été baptisés dans l'eau pour confirmer qu'ils avaient compris le message, la parole nous dit ceci. L'apôtre Paul a imposé les mains suite au baptême à ses 12 personnes, ses 12 disciples. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit, se sont mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. C'est ce qu'on voit partout à travers le livre des Actes, que lorsque l'Esprit de Dieu remplissait, il se passait quelque chose et que c'était une seconde expérience qui s'était différente de la nouvelle naissance. La deuxième question à laquelle, donc, est-ce que c'est la seule fois où ça s'est passé à la Pentecôte? Non, ça s'est passé au travers de tout le livre des Actes. La deuxième question qu'on s'est posée la semaine dernière, c'est est-ce que c'est le parler en d'autres langues, est-ce que c'est le signe initial ou la preuve que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit? On vient de le voir que partout dans les Écritures, dans le livre des Actes, partout où les gens ont prié pour les gens, il y avait quelque chose, une manifestation extérieure qui soit dit explicitement ou soit qu'elle est sous-entendue. Et je crois de tout mon cœur ce matin que si on posait la question à l'apôtre Paul en 2009, à savoir est-ce que les langues accompagnent toujours le baptême du Saint-Esprit, je crois de tout mon cœur que la réponse de l'apôtre Paul serait oui, effectivement. Parce que pour moi, c'est tout à fait logique de croire, frères et sœurs, qu'il fallait qu'il y ait un signe extérieur pour que nous sachions si nous sommes réellement baptisés du Saint-Esprit. Parce que s'il n'y a pas de signe extérieur, on est toujours en train de se poser la question, est-ce que je le suis vraiment ou je ne le suis pas? C'est certain qu'il y a, il y a toutes sortes de croyances dans la famille évangélique. Mais pour moi, c'est évident que la Pentecôte, ça s'est passé et les langues sont venues. Et qu'au travers du livre des Actes, on voit que partout où on priait pour les gens, pour une seconde expérience, il y avait quelque chose qui se manifestait. Donc, pour moi, c'est une évidence. Et c'est logique. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire, je crois, que de croire que nous l'avons alors qu'on ne l'a pas. Et si le Seigneur ne nous avait pas donné un signe extérieur, on serait toujours en train de se poser la question, est-ce que je l'ai ou je ne l'ai pas? Si on n'y avait pas un signe extérieur, on serait vraiment... Il faudrait s'arrêter à ce qu'on ressent à l'intérieur. J'ai ressenti un frisson, j'ai ressenti une chaleur, j'ai ressenti telle chose et telle chose, mais on n'aurait jamais la confirmation de dire, je sais que je sais que je sais que je suis rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, parce que les langues viennent et que vraiment j'ai connu cette seconde expérience. Je crois que si nous recevons le même baptême du Saint-Esprit que les gens du livre des Actes, on va avoir le même effet sur nos vies. Je crois que celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus lui-même, n'a pas changé ses méthodes. Il n'a pas changé du tout en tant que personne, et je ne crois pas non plus qu'il a changé ses méthodes en 2009. Et que s'il baptise du Saint-Esprit en 2009, je crois que ça va être la même chose qui va se passer. Pourquoi ça serait différent? Ce matin, j'aimerais continuer à répondre à certaines questions. Et je l'ai dit depuis deux messages, que pour certaines personnes ici, cette série de messages sur le baptême du Saint-Esprit amène toutes sortes de questions dans votre esprit ou de remises en question, tout dépendant ce qu'était votre croyance avant que j'entame cette série de messages. Et ce matin, j'aimerais encore vous aider à aller un peu plus loin dans votre réflexion en répondant à trois questions très simples. Pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? Deuxièmement, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Et troisièmement, je l'ai recherché et je ne l'ai pas expérimenté. Pourquoi? Premièrement, pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? Avant de rechercher ce baptême de puissance que Jésus lui-même s'est réservé et qu'il avait annoncé, il avait dit aux disciples, « Attendez à Jérusalem de recevoir la promesse du Père, ce que je vous ai promis, ce que je vous ai annoncé, attendez avant de partir dans la mission, attendez de recevoir cela. » Je crois qu'avant de rechercher ce même baptême, il faut saisir la raison d'être de ce baptême-là. Il y a des gens qui recherchent Dieu et qui veulent vivre des expériences avec Dieu seulement pour ce qu'ils peuvent en retirer pour eux-mêmes. Plus, plus, plus. Mais à force d'entendre plus, 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 moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est oui, mais pourquoi plus, plus, plus? Est-ce que nous sommes appelés à chercher seulement la main de Dieu? Vous connaissez cette expression-là? C'est-à-dire ce que Dieu peut nous donner? Ou est-ce qu'on est intéressé à chercher sa face, à connaître qui est Dieu? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui passionne notre Dieu? Qu'est-ce qui le dérange? Qu'est-ce qui le touche? Où sont ses affections? Où il y a une certaine indifférence peut-être pour certains domaines? Moi, personnellement, je veux connaître Dieu. Et je sais que si je connais Dieu, la bénédiction va venir par le fait même. Mais moi, je ne veux pas juste avoir des choses de la part de Dieu, des bénédictions de la part de Dieu, mais de jamais apprendre à le connaître personnellement. Je veux connaître sa face. Je veux connaître ce qui l'intéresse, ce qui le passionne. Je veux que mon cœur, que moi-même, je devienne comme lui. À quelque part, j'aurais tendance à dire, je me fous pas mal des cadeaux. Si j'ai à choisir entre les cadeaux et entre connaître mon papa céleste, je veux connaître mon papa céleste. C'est comme un papa terrestre. Vous savez, il y a beaucoup le phénomène des familles divisées, des familles divorcées, séparées, et où le père ne réussit pas à connecter avec ses enfants, n'a pas le temps, il se donne à sa carrière, et qui arrive toujours avec des cadeaux à ses enfants, des gros cadeaux pour acheter leur affection. Il y a les enfants, là, au début, les enfants, quand ils sont jeunes, sont tout contents d'avoir des cadeaux. Mais il vient un temps où les enfants disent, « J'en ai rien à cirer de tes cadeaux. Moi, ce que je veux, c'est une relation avec toi. » Moi, c'est un petit peu ça que je dis, « Seigneur, je sais que tu es un Dieu qui veut bénir. Mais si j'ai à choisir, j'aime mieux te connaître que d'avoir des expériences. » Mais en même temps, ceci étant dit, je sais que, puis comprenez-moi bien ce matin, je suis convaincu que notre Dieu est le Dieu de la bénédiction. Je crois qu'il est le Dieu qui est l'inventeur de la bénédiction Et que non seulement c'est l'inventaire de la bénédiction, mais je crois qu'il nous a créés pour expérimenter sa bénédiction, que nous n'en avons besoin dans nos vies. Mais lorsque Dieu nous bénit, c'est pas seulement dans notre propre intérêt. Je crois que la bénédiction de Dieu doit normalement nous pousser à l'action, que ça doit se communiquer aux gens autour de nous. Il y a une expression qui dit qu'on est appelé à être des canaux de sa grâce. On reçoit la part du Seigneur, mais à quelque part, il faut que ça soit communiqué aux gens autour de nous. Quelqu'un a déjà dit, si tu reçois la main ouverte, le Seigneur te donne, et que ta main est ouverte pour donner autour de toi et bénir les gens autour de toi, le Seigneur va continuer à déverser en toi. Et vraiment, il va y avoir un flot, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans ta vie. Mais la journée qu'on va être béni de la part de Dieu, mais qu'on n'est plus intéressé, concerné par les gens autour de nous et qu'on ferme la main, il vient un temps où c'est plein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de frais. Ça devient stagnant. Mais je crois que lorsque nous recevons la bénédiction de Dieu, c'est dans le but que ça vienne, oui, ça vienne nous bénir par le fait même, mais en même temps que ça soit répandu autour de nous. Vous rappelez-vous lorsque Jésus a dit ceci, que celui qui a soif, qui vienne à moi, et des eaux vives couleront dans son sein, de son sein. C'est-à-dire qu'il va passer au travers de lui, mais pour aller vers les autres. Ça va aller à l'extérieur, ça va déborder. Comme disait le pasteur Dominique Ourlin, être béni afin de bénir, afin d'être une bénédiction. Quel est le but du baptême du Saint-Esprit? Pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? Jésus a dit ceci. Du coup, il n'y a plus rien qui se passe. Merci. On va revenir. Merci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la réponse à la question « Pourquoi, dans quel but de baptiser le Saint-Esprit? » C'est une puissance qui nous est confiée, qui nous est donnée afin, écoutez bien, de poursuivre le ministère de Jésus. Jésus a quitté, il a dit, « Mais avant de partir, attendez d'avoir la puissance. Ce que j'ai promis, ce que je vous ai annoncé, ce que le Père vous a promis, attendez de recevoir ça avant de partir et d'accomplir la grande mission qui est d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. » Donc, ça nous est confié. Pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? C'est une puissance afin de poursuivre le ministère de Jésus. Quel était le ministère de Jésus? Je suis content que vous posiez la question. C'était justement prévu dans mes notes. Luc, chapitre 4, verset 16 à 20, ça nous dit que Jésus entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Pourquoi que l'Esprit du Seigneur était sur Jésus? Il l'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'était, Jésus disait, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit sur moi pour ça, pour accomplir ce ministère-là. Et par la suite, ce qu'il a fait, il a demandé à ses disciples, maintenant c'est à vous de le faire. Et on voit entre autres dans Marc chapitre 6, versets 12 et 13, que les disciples ont commencé à faire le même ministère que Jésus. Ça dit, les disciples partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile, beaucoup de malades et les guérissaient. Donc Jésus a exercé le ministère, il dit, voici l'Esprit de Dieu sur moi pour délivrer, pour guérir, pour annoncer, pour délivrer, toutes ces choses-là. Maintenant, il dit aux disciples, c'est maintenant à vous de le faire. Et par la suite, c'est à nous, en 2009, de continuer et de poursuivre le ministère de Christ. La Bible nous dit que Jésus a dit ceci dans Jean 14, 12. En vérité, écoutez bien ceci, en vérité, ça veut dire, c'est vraiment vrai. Je vous le dis, celui et celle qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Que ceux et celles qui croient en Jésus sont censés faire et accomplir les mêmes actions, les mêmes œuvres que Jésus. On l'a vu tantôt. C'est-à-dire, vraiment, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, de proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. On est appelé à poursuivre le ministère de Christ, de faire les mêmes œuvres qu'il a fait. Chacun d'entre nous, ce n'est pas réservé aux pasteurs. Chacun d'entre nous, vous êtes appelé à poursuivre le ministère de Jésus, de faire les mêmes œuvres qu'il a fait. Matthieu 28, 19, 20 disait, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et en les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans une autre version, dans l'Évangile de Marc, ça dit, « Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde. » Ça, c'est pour nous, là. Pour tous ceux et celles qui se disent enfants de Dieu ce matin, qui se disent des disciples de Jésus, « Allez par tout le monde. » C'est ce que Jésus, s'il se présentait sur l'estrade à ma place et que j'allais m'asseoir là, c'est ce qu'il vous dirait. « Allez par tout le monde. » Prêchez la bonne nouvelle, ce n'est pas réservé au pasteur, à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a seulement les pasteurs qui croient? Merci de me rassurer. En mon nom, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont chasser les démons. Ils vont parler de nouvelles langues. Ils vont saisir des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Par la suite, ça continue en disant, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout selon ce que Jésus leur avait demandé. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc, Jésus a fait le ministère. Après ça, il a dit à ses disciples, c'est à vous à le faire. Puis aujourd'hui, en 2009, les disciples ne sont plus là, les disciples du premier siècle. C'est à nous de poursuivre le ministère de Jésus. Reinhard Bonnke, que sont ceux qui connaissent ce prédicateur, qui a un impact assez spectaculaire en Afrique, disait ceci. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit, Dieu en action, nous conduit à l'action. Nous n'avons pas été sauvés simplement pour nous attarder dans un contentement béat. Heureux d'être sauvés, tenant des rassemblements pour nous féliciter les uns les autres de la chance que nous avons d'être achetés. Il y a des activités plus importantes que les célébrations d'église, les concerts chrétiens et les nouveaux chants d'adoration sans fin. La louange n'est pas la puissance de Dieu pour le salut. C'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu. Nous ne devons pas nous flatter nous-mêmes de pouvoir bâtir un trône pour Dieu avec une quantité de nouveaux livres de chants. Notre contrat avec Dieu contient cette clause. Prêche la parole. Nous devrions faire plus que célébrer. Nous devons communiquer. C'est nous, frères et sœurs, chacun d'entre nous, mon épouse, moi et chacun d'entre nous qui sommes appelés à poursuivre le ministère de Christ et d'accomplir les œuvres qu'il a accomplies. Pour ceux et celles qui croient en moi, dit Jésus, vous ferez les mêmes œuvres que je fais et même vous en ferez de plus grandes. J'aimerais vous poser une question maintenant que ça a été dit. Vous sentez-vous capable de poursuivre le ministère de Christ? Vous sentez-vous équipé pour le faire? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez équipé pour témoigner, guérir ceux qui ont le cœur brisé, d'imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris et de prier pour la délivrance d'emprise démoniaque? Vous sentez-vous capable? Vous sentez-vous compétent? J'espère qu'à quelque part, lorsque vous entendez ça ce matin, si vous vous sentez incapable et même si vous vous sentez dépassé, et incapable, c'est un bon signe. Et c'est ce que je veux qu'on puisse réaliser ce matin. La tâche est au-delà de nos forces. Si vous vous sentez incapable ce matin, alors peut-être vous allez comprendre maintenant pourquoi c'est si important d'avoir la puissance du Saint-Esprit sur nous et le baptême du Saint-Esprit. Mais si vous vous sentez capable de poursuivre le ministère par vos propres forces, alors, c'est certain que vous ne considérez pas le baptême du Saint-Esprit comme quelque chose d'essentiel pour votre vie. Et si pour d'autres, ce matin, vous voulez vivre et vous avez connu le Seigneur il y a plusieurs années et que vous désirez vivre une vie chrétienne confortable, ce que j'appelle une vie chrétienne confortable, coton ouaté, c'est certain que vous ne ressentirez pas le besoin d'avoir la puissance de Dieu parce que vous n'avez aucune intention d'aller et de poursuivre le ministère de Christ. La vérité claire et nette, frères et sœurs, est que c'est nous qui sommes appelés à poursuivre le ministère de Christ, c'est-à-dire à témoigner, à prier pour les malades, à délivrer les gens d'emprise démoniaque, de guérir ceux et celles qui ont le cœur brisé, dont des jeunes filles de 12 à 18 ans, dans un centre de détention. Je prie qu'on puisse voir des choses extraordinaires se passer dans ce centre-là. Nous avons désespérément besoin de la puissance de Dieu, du baptême du Saint-Esprit, de toute la puissance qu'il a pour nous, on en a besoin. Si on veut aller de l'avant et si on veut voir la ville de Québec se tourner vers Christ, on a besoin de sa puissance. Certains croient que le baptême du Saint-Esprit était seulement pour aider l'Église à démarrer et que par la suite, l'Église n'en avait plus besoin parce qu'elle était en mesure de vivre sur cette aire d'aller jusqu'en 2009. Non, non, quant à moi. Le baptême du Saint-Esprit a été prévu par notre Seigneur Jésus dans le but de nous aider à poursuivre son ministère. Et on en a encore en 2009 désespérément besoin. Et moi, je le dis, j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a de cela plusieurs années, mais je sais à quel point j'ai besoin encore de la puissance de Dieu. J'ai vu la différence entre témoigner à quelqu'un par tes propres forces et qu'il ne se passe absolument rien, et d'entendre, et d'autres occasions, lorsque je suis en train de témoigner à quelqu'un et que la voix de Dieu se fait entendre dans mon esprit et que j'ai des paroles qui viennent de la part de Dieu, que je parle à la personne et que la personne se met à pleurer parce que l'Esprit de Dieu fait son travail. Si j'ai à choisir entre faire les choses par mes propres forces ou être rempli du Saint-Esprit et d'être vraiment utilisé de la part de Dieu, je choisis d'être rempli du Saint-Esprit et de faire juste ce qu'il me dit de faire, c'est ce que je choisis. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'être rempli du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu et de vraiment sentir que l'Esprit de Dieu est en train de faire un ministère au travers de nous. Les questions donc à se poser ce matin sont peut-être, suis-je satisfait de mon témoignage, de l'impact de mon témoignage autour de moi? Y a-t-il de la place pour plus, frères et sœurs? Une autre question qu'on peut se poser, c'est « Suis-je en train de poursuivre le ministère de Jésus? » On a vu c'était quoi, là? Est-ce que je suis, moi, personnellement, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que je suis personnellement en train de poursuivre le ministère de Jésus avec les mêmes œuvres qu'il opérait lorsqu'il était sur terre? En ce sens, quelqu'un de la famille de l'Église, Vie Abondante, m'a écrit un courriel pour me faire part un petit peu de son témoignage quant à la réception du baptême du Saint-Esprit. La personne qui fréquente notre Église, a dit ceci, m'a écrit ceci. « Pour ma part, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit 6 mois après ma conversion. C'était l'après-midi pendant un temps de prière axé sur cette demande d'être submergé par le Saint-Esprit. Il a fallu environ une trentaine de minutes et j'ai senti la présence de Dieu très fortement. C'était une chaleur dans tout mon corps. Ensuite, j'ai senti des mots monter, simples syllabes que j'ai répétées. Wow! Quelle joie m'habitait! Cette expérience a changé ma vie, car j'ai vu une différence dans ma consécration. Mon désir de prier en langue pour m'édifier moi-même m'inspirait par le fait même à prier en français. Mon témoignage a eu davantage d'efficacité et j'évangélisais avec plus d'assurance. En fait, j'ai vu quelques personnes se convertir par la suite. » Jésus a dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et ici, la personne qui a écrit le courriel dit, « Lorsque j'étais rempli du Saint-Esprit, que les syllabes sont montées et qu'elles sont montées dans mon esprit, que j'ai répété, dit-elle, cette personne-là, elle dit, « Par la suite, j'ai vu un changement dans ma consécration, un changement dans mon témoignage. Il y a des gens qui se sont convertis suite à mon baptême du Saint-Esprit. » C'est une puissance qui survient sur nous, le Saint-Esprit, afin de nous rendre de meilleurs témoins. Donc, pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? Afin d'être équipé pour poursuivre le ministère de Jésus et de faire les mêmes œuvres qu'il fait. Et quand on dit de faire les mêmes œuvres qu'il a fait, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Il m'est arrivé des moments où que le Saint-Esprit, effectivement, m'a donné des paroles dans mon témoignage et que les gens ont été touchés, saisis. Et il y a bien des fois où j'aimerais voir plus de guérison dans mon ministère. Et ça, c'est entre les mains du Seigneur. Moi, la seule chose que je suis appelé à faire, c'est d'imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Et savez-vous quoi? C'est Dieu qui guérit. C'est pas moi. J'aimerais ça pouvoir guérir, ça serait vraiment super. Mais malheureusement, c'est pas entre mes mains. Et je crois que Dieu, dans sa sagesse, sait ce qu'il fait. Et je crois que quelque part aussi, on a besoin d'apprendre à avoir foi en Dieu, ici au Québec. Et vraiment, Je crois qu'il s'agit juste d'être rempli du Saint-Esprit et de faire ce que l'Esprit de Dieu nous dit de faire et qu'on va voir la puissance de Dieu se manifester autour de nous. Autre question ce matin. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Quelques éléments que la parole nous enseigne très rapidement. Première chose, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Ça doit être précédé par la repentance. L'apôtre Pierre disait ceci à la fin de son message, le jour de la Pentecôte. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. » Donc, premièrement, la repentance. La première étape, c'est de se repentir. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur ce matin et que vous n'êtes pas repenti de vos péchés, la première étape pour recevoir la puissance de Dieu dans nos vies, c'est d'être repentant. Je crois que Jésus réserve le baptême du Saint-Esprit pour ses disciples, seulement pour ses disciples, qui sont vraiment sérieux à l'idée de se retrousser les manches, de mettre l'organe de travail de la fête des Pères et de dire « Je désire contribuer à la grande mission. Je désire être utilisé de la part de Dieu pour poursuivre le ministère de Christ. Je crois que le baptême du Saint-Esprit est donné à ceux et celles qui veulent obéir à la grande mission. » D'où mon deuxième point, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Par l'obéissance. L'apôtre Pierre disait un peu plus loin dans le livre des Actes, « Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent au Seigneur. » Une autre clé, de demander et saisir par la foi. Comme disait l'apôtre Pierre, « La promesse du baptême du Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur va les appeler. » Donc ce matin, c'est pour vous, personnellement. Ne doutez pas, bannissez la crainte de vos cœurs, bannissez le doute de vos cœurs. Cette promesse est pour vous aussi. Demandez et saisir par la foi que c'est pour vous ce matin. Avoir confiance que Dieu veut. Demeurer dans l'expectative, dans l'attente que Dieu veut faire en sorte que nous expérimentions ce baptême de puissance. Vous rappelez ce que Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Luc 11, 13 nous dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Avoir confiance que Dieu veut que nous expérimentions ce baptême. Autre point, comment recevoir le baptême, c'est persévérer dans la prière. On a l'impression que Corneille, dans la maison de Corneille, ce fut une effusion spontanée malgré eux. Mais on sait que Corneille et les gens de sa maison étaient des gens qui cherchaient activement à connaître Dieu. On sait qu'à la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu dans la chambre haute, nous savons que ça faisait 10 jours qu'ils persévéraient dans la prière. Selon Acte 1, verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Et 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, c'est là qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ça nous dit aussi que l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, que la lumière est apparue, et que vraiment il a été ébloui, et que Jésus s'est manifesté, s'est révélé à Saul à ce moment-là, ça nous dit que les 3 jours qui ont suivi, il était dans le jeûne, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et je peux très certainement imaginer, de toute évidence, connaissant l'apôtre Paul, et on voit sa personnalité dans les autres épîtres qu'il a écrit plus tard, qu'assurément qu'il a pris ces 3 jours pour prier, pour s'adresser au Seigneur Jésus qui venait de se manifester, pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Il a cherché, et 3 jours plus tard, Ananias est arrivé et a dit ceci, « Le Saint-Esprit m'a envoyé. » Le Seigneur Jésus lui-même m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Voici des clés que la parole nous enseigne. J'arrive à ma troisième question et ma dernière avant qu'on aille vers un temps d'appel ce matin. Je l'ai recherché, je ne l'ai pas expérimenté. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui peut nous bloquer? Est-ce qu'il peut y avoir des blocages qui peuvent en faire en sorte qu'on n'expérimente pas ce baptême, cette deuxième expérience, cette seconde expérience que le livre des Actes nous enseigne? Je crois que oui, il peut y avoir des blocages. Et selon, avec notre expérience, à force de voir les gens être baptisés du Saint-Esprit, on voit parfois qu'il y a des blocages et qu'on en vient à comprendre qu'il y a certains principes quand même qui précèdent le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, pour certaines personnes du moins. Il y a peut-être des gens ici ce matin, vous désirez expérimenter le baptême du Saint-Esprit, mais vous n'êtes pas certain que Dieu veut vous l'accorder, en raison de vos péchés et de vos erreurs passées. J'aimerais vous dire ce matin que si c'est votre cas, que si vous avez des doutes que Dieu veut que vous expérimentiez ce baptême, laissez-moi vous dire que si vous vous êtes repenti de vos péchés passés et que vous n'entretenez pas de péchés présentement et volontairement, vous avez le feu vert pour demander la bénédiction de votre Papa céleste. Rappelons-le, le baptême du Saint-Esprit n'est pas quelque chose que nous méritons, c'est un don qui nous est donné de la part de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas un signe de santé spirituelle, n'est pas un signe de maturité spirituelle. Il y a des chrétiens qui sont immatures spirituellement puis qui sont baptisés du Saint-Esprit. Donc, les pentecôtistes n'ont aucune raison de se vanter par rapport à d'autres frères et sœurs dans le Seigneur, parce que c'est pas un prestige d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est un don qui nous est donné afin de poursuivre le ministère de Christ. Donc, on ne peut pas le mériter en accumulant des hair miles spirituels. Et ceci étant dit, par contre, l'expérience nous démontre que plusieurs blocages empêchent les gens d'expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Comme le disait l'apôtre Pierre, le Saint-Esprit que Dieu donne est donné à ceux qui lui obéissent. C'est important de comprendre ça. Et voici 9 blocages ce matin, avant qu'on aille dans un temps de prière pour que vous puissiez expérimenter cela. 9 blocages qui peuvent nous empêcher d'expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Premièrement, premier blocage, vous ne croyez pas dans la nécessité du baptême dans le Saint-Esprit. Vous êtes satisfait, peut-être êtes-vous satisfait de votre état spirituel, même s'il est loin de poursuivre le ministère de Christ. Ça peut être un blocage si vous ne voyez pas l'utilité du baptême du Saint-Esprit. Un deuxième blocage que vous pouvez avoir ce matin, c'est peut-être que vous recherchez une puissance seulement pour vous-même. Vous voulez recevoir la puissance de Dieu, mais il n'y a pas une intention de vouloir faire quelque chose avec cette puissance-là et d'accomplir, et d'avoir un impact, et d'avoir une influence. Mais vous voulez seulement vivre ça pour vous-même et vous dites, jamais je veux témoigner, jamais je vais aller autour de moi, j'ai trop peur. Peut-être que c'est un blocage pour vous ce matin. Pour d'autres, vous refusez peut-être de reconnaître que vous avez pu être dans l'erreur pendant de nombreuses années quant au sujet du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours évident lorsqu'on entend une opinion différente et que là, on apprend, ça diffère de ce qu'on pense et de dire, est-ce que c'est ça la vérité ou est-ce que c'est ce que je croyais depuis des années? Et ce n'est pas toujours évident de s'humilier, de dire, j'étais dans l'erreur pendant des années. Peut-être que c'est le blocage peut-être pour vous ce matin. Pour d'autres, peut-être que vous croyez que le baptême du Saint-Esprit et le parler en d'autres langues ne sont pas pour tout le monde. Et que certaines personnes, peut-être si vous mêlez le parler en d'autres langues lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit et le don des langues que l'apôtre parle lorsqu'il dit que les gens ont le don des langues avec interprétation, c'est deux choses complètement différentes. Un est un don spirituel, tandis que l'autre est le signe initial de cette seconde expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Cinquième blocage, peut-être que des gens ici, que vous n'avez pas complètement renoncé aux choses occultes dans votre vie, qu'il y a encore de l'idolâtrie, il y a encore des choses qui sont dans votre vie qui sont plus importantes que Dieu et que vous n'avez pas encore abandonné. Ça peut être un blocage qui vous empêche d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit, comme la parole nous enseigne. Un autre blocage aussi qu'on a réalisé et qui arrive fréquemment. Il y a peut-être des gens ici ce matin, vous entretenez de l'amertume, de la rancune, peut-être même de la haine à l'égard de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous refusez de pardonner à quelqu'un. Si c'est le cas, ne vous attendez pas à être baptisé du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est accordé à ceux qui lui obéissent. Et le Seigneur Jésus nous a enseigné de pardonner. Si nous avons été pardonnés de la part de Dieu, à combien plus forte raison nous sommes appelés à pardonner ceux qui nous blessent autour de nous? Septième blocage, peut-être que vous... On va inverser les rôles. C'est peut-être que vous n'avez pas demandé pardon à quelqu'un que vous avez blessé. Vous avez eu un comportement qui n'a pas honoré le Seigneur et votre orgueil vous empêche d'aller vous humilier et de demander pardon à quelqu'un autour de vous. Un autre blocage peut-être pour vous ce matin, c'est que peut-être que vous recherchez le baptême, mais vous le recherchez en autant que ça se passe comme vous le désirez. Vous êtes peut-être des control freaks, des contrôlants. Vous êtes des gens méthodiques, vous voulez que ça se passe comme vous imaginez que ça doit se passer. Vous refusez de vous abandonner à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance dans votre Papa céleste. Peut-être, c'est votre cas ce matin. Et le neuvième blocage, et non le moindre, il y a des gens peut-être ici que vous recherchez tout simplement une expérience mystique. Vous croyez que Dieu va prendre le contrôle de votre langue sans votre collaboration. C'est-à-dire que les gens pensent que lorsqu'on demande au Saint-Esprit, on demande à Dieu de nous baptiser du Saint-Esprit, de connaître cette expérience, d'être rempli de cette puissance pour le témoignage, il y a des gens qui pensent que ça va être quelque chose où vous allez perdre complètement le contrôle. Et que là, c'est plus vous là, qui va contrôler. Ça peut arriver parfois. On l'a vu à quelques reprises. Des baptêmes du Saint-Esprit qui sont assez foudroyants. Mais la majorité du temps, ce que moi j'ai expérimenté dans mes presque 25 ans de vie chrétienne, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai entendu les gens témoigner, c'est que ça vient très simplement. Et alors que les gens sont en train de prier à voix haute, à un moment donné, alors qu'ils sont en train de prier au Seigneur, parler au Seigneur, il y a des syllabes, il y a des choses qui viennent dans notre esprit. Et savez-vous quoi? C'est nous qui parlons en d'autres langues. Nous parlons en d'autres langues. On ne perd pas le contrôle de notre langue, ça peut arriver. Mais la majorité du temps, c'est que c'est simplement on entend les langues à l'intérieur. Moi, c'est comme ça s'est passé. J'ai entendu les langues qui montaient à l'intérieur de moi. Et alors que j'étais en train de prier, j'étais en train de chanter, j'ai commencé à chanter en d'autres langues. Et ma mère qui m'a arrêté dans la maison pour me dire, « Benoît, c'est quoi tu dis? » Je ne m'étais même pas rendu compte que je parlais en d'autres langues, je chantais en d'autres langues, il y avait une joie qui m'habitait. Comme disait la personne qui m'a envoyé un courriel sur son témoignage, elle a dit, « J'ai senti la présence de Dieu très fortement. C'était une chaleur dans tout mon corps. Ensuite, j'ai senti des mots monter, simples syllabes que j'ai répétées. Waouh, quelle joie m'habitait. » 9 blocages. Et ce matin, peut-être que le Saint-Esprit vous attire, vous interpelle par certains de ces blocages-là. Quand vous allez vous avancer, avant de commencer à demander au Seigneur, « Remplis-moi de ton esprit, je sois baptisé du Saint-Esprit », s'il y a des blocages qui vous ont interpellé, maintenant c'est à vous d'obéir à la voix de l'Esprit de Dieu qui vous interpelle au travers de mes paroles. Faites-le. Si c'est de la repentance, repentez-vous. Si c'est de demander pardon, demandez pardon. Si c'est d'un manque de confiance dans votre Père céleste, dites-lui, demandez pardon au Seigneur, je ne te fais pas confiance dans tout ça. Il y a des gens ici ce matin, vraiment, que vous avez recherché le baptême du Saint-Esprit, que vous n'avez pas vécu. Peut-être que dans ces blocages-là, il y a vraiment des choses, des lumières qui se sont allumées. Et pour d'autres, écoutez bien ce que je vais dire, pour d'autres, il n'y a pas de lumières qui se sont allumées avec les 9 blocages que je viens de mentionner. Mais dans ce cas-là, ce que je vous encourage à faire, c'est ceci. De demander au Seigneur, « Seigneur, pourquoi je ne l'expérimente pas? » Et de vous attendre et de ne pas lâcher le morceau tant que le Saint-Esprit ne vous montrera pas quel est votre blocage. Qu'est-ce qui vous empêche de recevoir? Parce que l'apôtre Pierre le dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur va les appeler. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais inviter Nancy avec son équipe à venir me rejoindre et j'aimerais pouvoir prier avec vous ce matin. On n'a pas à démonter la salle, on va prendre une dizaine de minutes ensemble pour vraiment chercher sa présence. On va dépasser de 5 minutes. Merci de m'accorder la grâce. Le Seigneur est rempli de grâce, soyez rempli de grâce à mon égard, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment qu'on puisse se concentrer sur le Seigneur dans les prochains instants. Et que c'est le Seigneur que nous louons et que nous adorons. Et alors que vous allez vous approcher ici, je vous encourage à parler au Seigneur de façon audible et de le louer avec vos propres paroles et à élever vos voix. Et peut-être qu'alors que vous allez élever la voix, il va y avoir, alors que vous allez demander au Saint-Esprit de venir faire son œuvre en vous, vous allez avoir des paroles qui vont monter dans votre esprit. Commencez à les dire. Il y a bien des gens qui ont eu juste une syllabe quand ça a commencé. Mon épouse, ça a été le cas lorsqu'elle a été baptisée du Saint-Esprit, elle a eu juste une syllabe qui est venue. Mais elle a commencé avec cette syllabe-là et tout d'un coup, à un moment donné, ça s'est mis à se multiplier, à changer et à vraiment s'élargir, je pourrais dire. Alors que notre sœur Nancy va commencer à diriger dans un chant de louange, j'aimerais juste qu'on puisse fixer notre attention sur Jésus-Baptiste. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui. C'est notre Seigneur, c'est l'agneau qui est sur le trône, que la Bible nous dit que l'agneau, celui qui a été sacrifié pour nous donner la vie. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre maintenant ce temps ensemble pour chercher et dire au Seigneur, on a désespérément besoin de ta puissance pour poursuivre ton ministère, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, avant même que la musique commence, est-ce qu'on peut juste élever nos voix dans ce lieu et commencer à le louer et à l'adorer et à le magnifier et dire, Seigneur, on a faim et soif de toi. On veut juste du frais, juste du vrai. On veut pas, Seigneur, rien de charnel. On veut pas rien, Seigneur, qui ne soit pas de toi. Mais tout ce que tu as pour nous, pour tes enfants, pour nous qui sommes tes enfants, toi qui es notre Père, en ce dimanche de la fête des Pères, Seigneur, viens nous remplir de ton esprit. Viens, Seigneur, remplir du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, viens faire ton œuvre. Viens, Seigneur, remplir du Saint-Esprit.